France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Quand on se posait il y a 6 ans la question de ce qui doit animer les élections municipales, l'environnement et le réchauffement climatique étaient cités par 24% des sondés, aujourd'hui 9%. Au rang des priorités, 5e position, loin derrière les questions économiques et sécuritaires. Il y a 6 ans, à la même date, on voyait déjà poindre ce qui allait advenir, une vague verte. Et pour la première fois, 7 maires verts à la tête de villes de plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui, dans la campagne, on en parle peu. En 6 ans, et je parle sous le contrôle de nos invités, nous ne sommes pas devenus indifférents à l'écologie et à la protection du climat. Pas du tout. D'ailleurs, aucun candidat à une mairie n'envisage de détricoter intégralement les aménagements qui ont été faits, et tous, quel que soit leur bord, se saisissent du cadre de vie, des espaces verts, de la mobilité, etc. Mais 2020 était peut-être sur une vague plus optimiste. Nous avions peut-être tous en tête encore les accords de Paris. Les marches pour le climat étaient encore nombreuses. En 2026, derrière nous, nous avons des polémiques. La plus récente concerne les ZFE, les zones à faible émission, polémique autour de l'A69, polémique avec l'agriculture, détricotage, là pour le coup, du pacte vert européen. Et dans le même temps, nous avons eu une pétition monstre contre la loi Duplo, par exemple. L'écologie est devenue fracture. Elle est clivante, elle est polarisante. On y met quand même un point d'interrogation, nous y viendrons, même si elle est partout et ça, personne ne le conteste. Regardez l'actualité d'aujourd'hui, les journaux de ce soir. Une ligne aérienne rétablie entre Paris et Limoges, un accident mortel à vélo. On parle de mobilité douce, d'aménagement vert, de transport. On est pile dans les municipales. Alors quand on veut être maire aujourd'hui, sur quelle ligne de crête marche-t-on? Quel équilibre? Le changement climatique n'est abstrait pour personne, mais c'est comme s'il était bardé de capteurs pour les politiques. Attention clivant, attention acceptabilité. Les maires sont sur une ligne de crête, les maires verts le sont peut-être encore plus. La question que posent ces municipales d'ailleurs, c'est leur ancrage, leur capacité à rejoindre les villes moyennes, parce que c'est vrai, leur percée se voit surtout dans les grandes métropoles. Ça aussi, ce sera sujet de nos discussions. L'enjeu municipal de l'écologie, c'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Stéphane, vous êtes le bienvenu, vous êtes le premier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous écoute.
Merci. Alors effectivement, il y a 6 ans, il y avait eu beaucoup de maires verts qui avaient été élus, mais peut-être qu'aussi aujourd'hui, les électeurs voient aussi les résultats. Et des fois, on peut être dérouté par des actions dites écologiques, mais qui ne sont pas forcément. Par exemple, à Paris, le seul arrondissement où il y a une mer verte, le dernier espace vert non construit, Neter des Bergs, a été rasé pour faire un programme immobilier. Vous voyez les nouvelles places de Paris où les bus sont complètement bloqués. La vitesse des bus est passée à 9 km/h. Donc je pense pas que ce soit la manière d'encourager les transports en commun. Si on va dans le 13e, le quartier du Tour du Haut, réalisé par cette alliance PS vert.
J'ai bien compris, Stéphane, pardon. Je ne veux pas vous interrompre, mais j'aimerais bien qu'on ne fasse pas les arrondissements parisiens l'un après l'autre.
Quelques exemples.
Mais j'ai bien entendu ce que vous nous dites. Merci beaucoup pour cette entrée en matière et merci de votre participation. Pour discuter ensemble autour de la table, il y a Guillaume Caline. Bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur du pôle Enjeux publics et opinion au sein du groupe Verian, cabinet d'études et de conseil. Il y a Brice Sokol. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et essayiste. Vous êtes co-auteur avec Frédéric Dabi de L'écharpe et les tempêtes face aux mers, la défiance inattendue aux éditions de l'Aube. C'est très récent, ça date de la fin de l'année dernière, 2025. Et puis Jean-François Vigier est là également. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vigier. Vous êtes maire UDI de Bures-sur-Yvette et vous êtes président aussi de l'Association des maires de France.
Vice-président.
Vice-président, oui, c'est pas ce que j'ai dit.
Président.
J'ai dit président, bah écoutez, peut-être non. Un jour. Vice-président de l'Association des maires de France. Merci aussi d'être avec nous. Je vais commencer là-dessus parce que, avec vous peut-être, Guillaume Caline, parce que alors Stéphane parle d'une part des bilans, mais après ce qui va nous frapper peut-être tout au long de cette émission, c'est aussi, on le disait tout à l'heure en introduction, que on parlait de percée en 2020, on parlait de métropole. Hein. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait toute la différence et qui fait le clivage d'ailleurs. Hein. Grande métropole, pas grande métropole, ville moyenne.
Oui, tout à fait. En 2020, on avait beaucoup parlé effectivement d'une vague verte parce que finalement, les écologistes qui dirigeaient une seule ville de plus de 100 000 habitants, à la fin du scrutin, ils en dirigeaient 7. Et donc effectivement, c'était une vraie percée, mais qui était peut-être aussi un petit peu une percée en trompe-l'œil parce que c'est vrai que lors des élections municipales, on commente beaucoup les résultats dans les très grandes villes, les villes les plus marquantes. Et c'est effectivement là où ils avaient fait des très bons scores. mais ces grandes métropoles, elles ne ressemblent pas à l'ensemble de la France. Hein. Elles ont une sociologie aussi très particulière, avec une population qui est plus jeune, une population qui est plus diplômée et qui vote plus souvent pour les écologistes. Donc, c'est vrai que 2020 avait beaucoup mis en lumière cette percée des écologistes. Le risque cette année, c'est d'avoir le sentiment, s'ils perdent des villes, qu'il y a un recul des préoccupations écologiques, alors que par ailleurs, sur le territoire, on voit quand même que les préoccupations écologiques et environnementales des Français, elles restent très importantes.
L'autre aspect de la question de Stéphane, Brice Sokol, sur lequel on viendra forcément, c'est du coup le clivage, en fait, c'est aussi ça que ça a créé ces 6 ans-là. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'on est passé de quelque chose de sinon consensuel, en tout cas de presque un peu universel, en disant oui, de toute façon, il faut aller dans cette direction-là, à quelque chose qui est devenu très clivant et qui crée des situations qu'on n'avait peut-être pas envisagées d'ailleurs, si.
Alors, si vous permettez, je reviens sur une première question parce qu'elle est intéressante. Bien évidemment, il y a eu un contexte particulier en 2020. Vous l'avez souligné vous-même, les accords de Paris, les marches pour le climat. Les élections européennes, un an avant les élections municipales, les écologistes avaient fait un score historique autour de 13,48%. Vous savez combien ils ont fait en 2024 ?
On s'en souvient,
ils ont fait
5%. À peine 5%. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'était une vague politique ou une vague sociétale ?
Les deux, mon général. Ouais. C'était une vague sociétale. Et ça reste une vague sociétale parce que l'écologie, aujourd'hui, est omniprésente à l'échelle internationale, européenne et nationale. On a beaucoup travaillé sur les sémantiques, sur les mots, avec Frédéric, mais aujourd'hui, on préfère parler de cadre de vie et pas d'écologie, parce que l'écologie, comme vous le disiez, est un sujet qui peut paraître clivant.
Ouais, c'est ça.
Parce que porté par beaucoup de candidats écologistes venant de la gauche ou de l'extrême-gauche, et portant le mot « transition », Dans le sens de mot rupture. Et c'est peut-être ce qui a été le plus frappant sous ces mandats, c'est que, en fait, cette transition qu'on aurait pu penser progressive est apparue pour beaucoup de nos concitoyens des ruptures. Parce qu'en effet, il a fallu changer rapidement, en 2 ans, en 3 ans, la physionomie des villes, dans le domaine de l'espace public, dans le domaine du logement, dans le domaine de la qualité de l'air. Et peut-être on n'a pas suffisamment su accompagner ces changements. Et c'est pour ça que ce mot transition est très pervers, parce que pour beaucoup de gens, c'est une rupture et c'est parfois une inégalité sociale.
Jean-François Vigier, je voudrais rebondir sur ce que dit Brice Sokol. Moi, j'ai l'impression que dans ces 6 ans, est apparu le mot acceptabilité, qu'on utilisait finalement assez peu avant 2020, en tout cas s'agissant des questions écologiques. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là, vous, du côté des maires ?
Mais c'est surtout que les maires sont d'abord très impliqués sur les questions de transition écologique dans leur commune, tous les maires. La preuve en est, c'est qu'hier, nous étions encore en réunion de bureau de l'AMF, sous la présidence de David Lisnard, et que nous avons passé un grand moment à débattre sur les conséquences de décisions que prend l'État pour la lutte contre les inondations et qui ont trait à la taxe GEMAPI que les collectivités financent. Donc c'est un vrai sujet. Mais là, il faut bien avoir en tête, et ayons bien à l'esprit, que la transition écologique dans les territoires, ce ne sont pas que des COP et des stratégies nationales, c'est avant tout de la vie quotidienne. Parce que quand au mois de juin, sous la canicule, vous avez les enfants qui sont dans les classes à 30 degrés, les parents viennent vous voir pour demander d'installer des climatiseurs dans toutes les salles de classe, vous avez un devoir d'explication pourquoi ça ne réglera pas la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Quand vous avez un territoire comme le mien qui est inondé à 8 ans d'intervalle, des quartiers entiers qui sont inondés dans le Val d'Yvette, la deuxième fois, les habitants vous disent « Qu'avez-vous fait entre 2016 et 2024 ?» pour empêcher les inondations. Ça, c'est de la vie quotidienne. Quand vous luttez, quand vous essayez d'améliorer l'alimentation des enfants dans les écoles, quand vous faites revenir la biodiversité en ville, tout ça, c'est de la vie quotidienne.
Et quand on parle d'aménagement de la ville, quand on parle de mobilité, quand on parle de transport...
Quand vous parlez, madame, de mobilité...
Il y a toujours un corollaire à un moment qui touche de toute façon à l'écologie.
Et la transition écologique, ça se passe bien jusqu'à ce que vous bouleversiez les habitudes de nos concitoyens. Exemple, la pratique du vélo dans les villes. Ma ville est en 2025 classée numéro 1 en Essonne sur les aménagements vélo, mais la question du partage, l'acceptabilité du partage de l'espace public, c'est un débat de fond.
Ouais, l'acceptabilité, on va forcément y revenir. Guillaume Caline, je voudrais m'arrêter aussi sur les problématiques locales que disait Jean-François Vigier. C'est peut-être ça aussi qui, à un moment, a heurté les conversations. J'y pense parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, dans l'actualité, il y avait la ligne aérienne qui rouvre entre Paris et Limoges. On se dit, a priori, c'est tellement contre-productif. Quand on y songe, quand on y réfléchit un peu mieux, bah oui, ça s'appelle de l'aménagement du territoire. Donc c'est tellement bien plus compliqué que ça, et vraiment attaché à des bouts de territoire. Peut-être que c'est ça l'erreur qu'on a faite, en fait, en essayant d'être trop nationaux et pas assez orientés vers le territoire.
Pas assez orientés vers le territoire, peut-être parce que, effectivement, ce qu'on voit, c'est que la question écologique, elle est importante pour les Français, elle est très importante au niveau national, ils estiment souvent que ça doit être une priorité, alors qui est en concurrence aussi avec d'autres. L'intérêt du niveau local, c'est que ça permet vraiment de matérialiser ce que signifie cette transition écologique, à la fois en bien, parfois, en voyant effectivement à quel point le cadre de vie peut être aussi plus agréable grâce à des aménagements comme la végétalisation, le retour de la nature en ville, hein, qui est rendu nécessaire par la transition écologique. Et puis parfois, effectivement, c'est aussi au niveau local qu'on va voir ces frictions, ces changements dans son quotidien qui vont impacter ses mobilités, qui vont le rendre plus difficile. Et effectivement, l'écologie devient un petit peu plus polarisante qu'elle ne pouvait l'être par le passé, parce que finalement, elle était assez consensuelle, mais finalement, là maintenant qu'on rentre dans le dur, on va dire de la nécessaire adaptation de nos modes de vie, forcément ça devient plus difficile. Mais malgré tout, il ne faut pas non plus trop exagérer cette polarisation. On voit que la nécessité de changer nos modes de vie, de lutter contre le changement climatique, elle est largement partagée par les Français. Donc il faut effectivement distinguer les préoccupations des Français.
Et c'est ça qui est intéressant, parce que le socle commun qui dit oui, le réchauffement climatique est une réalité, là-dessus il n'y a pas photo, Brice Sokol. Tout le monde dit exactement la même chose, mais au fond on se demande si je cherche le synonyme de backlash, le boomerang, c'est un boomerang citoyen ou un boomerang politique, et je pense avoir la réponse en même temps que je vous pose la question.
Oui, non, mais vous l'avez. Mais en effet, aujourd'hui, vous prenez le mot dérèglement climatique, réchauffement climatique, climat. Enfin, 90% des Français dans tous les sondages que l'on fait aujourd'hui sont sensibles à ces préoccupations et prennent conscience dans leur quotidien. On a eu là encore des épisodes d'inondations, on a eu des épisodes de sécheresse, on voit ce qui se passe dans le monde. Donc il y a une prise de conscience collective. Le sujet, le vrai sujet, ce sont les inégalités, ce sentiment d'inégalité. Vous savez, vous vous souvenez de Jean Pisani-Ferry, qui avait fait un rapport en 2023 au Premier ministre, et il disait « La transition est spontanément inégalitaire ». Je pense que le sujet, il est là aujourd'hui. Il est pas sur le fond, il n'est pas sur l'écologie, il n'est pas sur l'environnement, sur cette nécessité d'améliorer notre cadre de vie du quotidien. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut tous en profiter au même prix ? Je pense que le sujet, il est devenu un sujet social et plus un sujet sociétal.
Et est-ce que chacun y fait sa part, c'est-à-dire la sobriété, dont les gens ont simplement que la sobriété est imposée au peuple, pas imposée, et sans vouloir faire de caricature, à ceux qui ont des jets et autres, mais c'est important dans ces moments-là, le symbole, donc à qui on impose quoi ? Je voudrais qu'on écoute une note vocale, on la découvre ensemble, c'est celle d'Olivier.
L'écologie ne devrait pas être posée comme un domaine séparé des autres domaines, mais mélangé aux autres, combiné aux autres. Par exemple, vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites pour que, quand il y a une période de vague de chaleur, les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions, puissent aller en récréation dans de bonnes conditions? Qu'est-ce que vous faites pour que vos équipes, vous, dans les locaux de la mairie, puissent travailler dans de bonnes conditions? Que disent les assurances? Votre assurance, est-ce qu'il y a un risque de non-assurabilité de votre commune? Voilà le genre de questions qui devraient être posées aux candidats, par les électeurs et aussi par la presse. Et pas poser la question de l'écologie comme un domaine séparé des autres.
Jean-François Vigier, c'est pour vous, monsieur le maire UDI de Bure-sur-Yvette, mais moi j'ai le sentiment justement qu'elle ne l'est plus séparée des autres domaines, l'écologie. Et c'est bien peut-être le problème de l'écologie politique d'ailleurs, hein, c'est que la séparation n'existe plus, si
Je pense que c'est la charpente, c'est la voûte de nos politiques publiques. Parce que tout se décline à l'aune de la transition. Rénovation énergétique des écoles. Monsieur vient de dire, qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? Il faut rénover énergétiquement toutes nos écoles, toutes nos salles de classe. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi la formation. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aller dans les écoles pour former les enfants dès le plus jeune âge, aux bons réflexes. On va apprendre, nous les enfants, à faire du vélo dans les classes, avec l'association locale. Mais je voudrais aussi insister sur un point, c'est que toutes ces politiques ont un coût exorbitant. et qu'aujourd'hui, les collectivités locales ne sont pas armées pour réaliser les investissements nécessaires dans les délais que des instituts spécialisés donnent en exemple.
D'où ma question tout à l'heure d'adaptation aux problématiques locales. Et ça aussi, l'argent, ça rentre en ligne de compte quand on parle de problématiques locales. On est d'accord, Jean-François Vigier ?
Je vais vous donner un exemple. Pardonnez-moi ces quelques chiffres. L'Institut de l'économie pour le climat, qui est présidé par l'excellent Jean Pisani-Ferry, a indiqué dans un rapport fin 2024 que les collectivités devaient investir 19 milliards par an entre 2024 et 2030 pour faire la transition. Fin 2023, nous faisions au mieux entre 8,5 milliards et 9 milliards. Pourquoi nous sommes bloqués ? Tout simplement parce que nous sommes asséchés dans nos capacités financières, déjà fiscalement. Notre capacité à nous endetter, elle est limitée parce que nous votons des budgets en équilibre, nous, et que si nous dépassons 4, 5, 11, 12 ans de capacité de désendettement, on vient nous dire qu'on dépense trop. C'est le service de l'État qui vient de nous le dire. Donc aujourd'hui, la transition écologique, dans tous ses aspects, pour la financer, ben, on la fera, mais on la fera pas en 6 ans. Donc là, il faut qu'il y ait une prise de conscience, parce que on peut d'un côté avoir des gouvernements qui font des stratégies nationales, des plans de lutte contre pour s'adapter. Mais si de l'autre côté, nous n'avons pas les moyens de faire tous ces investissements dans un délai très court, tout cela est vain.
Sidonie nous attend depuis un moment. Bonsoir Sidonie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Non, je voulais simplement dire que pour moi, les communes, c'est vraiment l'un des premiers maillons très importants pour lutter contre le changement climatique, en tout cas pour y faire face. Puisque si on regarde les villages ravagés par les flammes dans l'Aude ou les inondations à Montpellier, en Bretagne, tout ça montre que ce soit pour l'aménagement du territoire ou même l'agriculture qui a des effets sur les sols et leur capacité à absorber l'eau, tout ça montre que les communes ont un rôle essentiel à jouer, et que ce soit à la campagne ou en ville.
Et merci beaucoup Sidonie, c'est pas Jean-François Vigier qui va vous contredire, mais Guillaume Caline, on a commencé à le dire un petit peu, est-ce que c'est aussi pour ça qu'on voit tomber, alors on verra bien ce qui se passera, mais qu'on voit bouger les chiffres des élus verts, parce qu'aujourd'hui, effectivement, chaque sujet dans une mairie aujourd'hui, de toute façon, a une queue de comète, si je puis dire, qui est un sujet qui a au réchauffement climatique, à l'adaptation et à tout ça.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une vraie déconnexion, finalement, entre le soutien aujourd'hui à l'écologie chez les Français et le vote pour les écologistes. Et les deux ne sont vraiment pas liés. Oui, chez les électeurs de gauche, on voit que les questions écologiques, ça fait vraiment partie de leur ADN, hein, historiquement. Mais maintenant, l'écologie, elle est vraiment très loin d'être marginale, à la fois de chez l'électorat centriste et chez les électorats de droite. Et on le voit bien aussi du côté des maires, hein, qui prennent ce sujet en compte et de plus en plus. Et au contraire, c'est vrai qu'on le voit, le parti des écologistes, anciennement les Verts, comme beaucoup de partis en France, ils ont aussi une mauvaise opinion. Ils peuvent être perçus justement comme étant trop de gauche par un certain nombre d'électeurs qui veulent agir pour l'environnement, mais qui qui sont en désaccord avec les positions des écologistes sur les mêmes sujets, et non pas forcément d'autres partis qu'ils identifient à droite autant porteurs de ces sujets écologiques. Et puis aussi, surtout, il y a beaucoup de Français qui nous disent l'écologie, c'est important, et comme le disait l'auditeur tout à l'heure, ça ne doit pas être un domaine à part. Tout le monde doit faire de l'écologie. Ils ne comprennent pas forcément le positionnement d'un parti qui n'aurait qu'un seul sujet.
Comment on peut expliquer justement, est-ce que c'est pour ça, Brice Sokol, que lorsqu'il y a un événement climatique directement lié au réchauffement climatique, notre auditrice en a cité, mais les canicules, les pluies diluviennes, etc., partout en France, de la même manière, ça n'envoie pas forcément les électeurs vers un parti écologique, et bien au contraire parfois d'ailleurs, preuve a été faite dans le Nord, après les événements climatiques et les inondations à répétition, c'est le Rassemblement National qui a récolté les fruits, si je peux dire, de ces catastrophes-là. Donc comment se fait-il qu'on ne se tourne pas vers les partis verts ?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que lors des élections municipales de 2020, dans les grandes métropoles, vous prenez Lyon, vous prenez Strasbourg, Vous prenez Bordeaux, ce sont des successions qui se sont mal passées et qui ont permis aux Verts, en alliance avec les partis socialistes, d'être élus. Donc il y a eu un petit effet miroir. Ouais. Deuxièmement, aujourd'hui, vous le voyez à Paris, mais vous voyez dans la principale métropole de France, dans la préparation des élections municipales, les Verts font alliance avec les socialistes et les communistes. Donc les Verts ont compris que voilà, ça allait être difficile d'être élus sur leur propre couleur, et l'alliance de gauche, des gauches, peut permettre au Parti Socialiste de garder ses 89 grandes métropoles avec les Verts. Troisièmement, la première thématique des Français, on en parlait en début d'émission, c'est le pouvoir d'achat.
Ouais.
C'est le pouvoir d'achat.
Pouvoir d'achat, sécurité.
Pouvoir d'achat et sécurité. Et vous parliez notamment de la région des Hauts-de-France, comme on pourrait parler de la région PACA ou d'autres régions. Cette notion de pouvoir d'achat, elle est, j'allais dire, préférentielle chez les Français. C'est une notion d'insécurité. Moi, j'aime pas parler d'insécurité parce que il y a les insécurités. Et dans les insécurités, il y a les vulnérabilités. Et pour moi, dans les vulnérabilités, il y a cette question environnementale. Et donc, aujourd'hui, ce que veulent les Français, dans ce message qu'ils adressent à leurs élus, c'est... Et ça englobe l'environnement. C'est pour ça que je pense que l'environnement est prégnant encore aujourd'hui. C'est nous voulons être protégés. Nous voulons protéger par rapport au pouvoir d'achat, protéger par rapport à l'insécurité, protéger par rapport aux aléas climatiques. Mais leur priorité, c'est le pouvoir d'achat.
Je voudrais que Jérémy nous rejoigne. Bonsoir, Jérémy.
Oui, bonsoir.
Jérémy, on vous écoute.
Vous m'entendez bien, oui.
Ah, très, très bien.
Écoutez, merci de me laisser la parole. Je voulais juste faire une petite remarque. 2020, c'était une année avec une conjoncture assez particulière, notamment la vague Covid. Moi, j'habite dans la banlieue de Strasbourg et on a pris forcément conscience dans nos villes que justement, on avait cette pensée, cette puissance de l'écologie qui était importante parce que, bien évidemment, c'était nous qui avions créé cette pandémie de manière indirecte. Et donc, forcément, les gens qui se sont retrouvés dans les villes, notamment les grandes villes, se sont retrouvés enfermés et ont pris beaucoup plus conscience de ça que ceux qui étaient à la campagne. Et je pense que maintenant, le Covid, c'est très, très loin et qu'on est beaucoup moins sensible à ça. Et c'est aussi pour ça qu'il va y avoir ce ressenti au niveau du vote pour les écologistes.
Merci beaucoup, Jérémy, pour cette remarque. Vous vouliez intervenir, Brice Sokol, je vous ai vu lever le doigt. Vous aussi, peut-être, Jean-François Vigier, je vous en prie.
Pardon.
Allez-y, monsieur.
Juste rajouter, oui, Strasbourg, c'était la succession d'Alain Ries qui s'est mal passé, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on, lorsqu'on regarde un peu les sondages d'opinion sur les. Si on se projette sur ces municipales qui arrivent, le seul maire vraiment estampillé écologiste qui devrait être réélu, c'est le maire de Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est. Deux choses. Le maire de Bordeaux, il a une culture plutôt il n'a pas une culture de militant de gauche ou d'extrême gauche. Il a une culture un peu bordelaise et social-démocrate. Et deuxièmement, il a fait un virage sur la sécurité parce qu'il fait partie de ces maires écologistes qui ont armé une partie de leur police municipale. Alors, il ne l'a pas fait par idéologie. Et pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il me l'a dit. Je l'ai fait notamment parce qu'il y avait un besoin, mais je l'ai fait aussi parce que c'était une manière pour moi de recruter des policiers municipaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'armez pas c'est un débat que vous avez eu ici,
exactement.
Votre police municipale,
absolument.
Je ne peux pas recruter de policiers
vous
municipaux.
Vous êtes un auditeur attentif, Brice Sokol. Merci beaucoup. J'ai une question sur WhatsApp pour vous, Jean-François Figier. Nous avons Johan qui nous dit ceci. Les politiques de transition écologique locale sont surtout supportées par les intercommunalités dans les sujets comme l'eau, les déchets, la mobilité, la pollution de l'air, etc. Et pourtant, elles sont absentes des débats et nous voterons pour élire également nos conseillers municipaux au mois de mars. Est-ce qu'il ne faut pas davantage informer les Français sur ce volet des élections ? Qu'est-ce que vous dites de ça, Jean-François Vigier ? Réexpliquer aux gens, voilà ce que nous faisons, voilà où sont nos prérogatives, voilà où on peut appuyer, voilà ce que font aussi les conseillers municipaux. Une fois tous les 6 ans, il y a de la grosse pédagogie à faire, non ?
Oui, mais c'est une remarque intéressante et... Il se trouve que je préside le syndicat de déchets local et que je siège également dans le syndicat des eaux qui gère toutes les questions d'inondation. Donc en fait, les élus locaux, les élus municipaux sont dans ces syndicats. Et autant vous dire que quand il y a des inondations à Bure-sur-Yvette, les citoyens, ils viennent voir les élus municipaux et c'est les élus municipaux qui sont avec eux pour les aider. Donc je dirais que il y a un lien direct. Par contre, effectivement, la question de la politique de transition, d'abord, elle part des mairies. Moi, je voudrais qu'on ne politise pas trop non plus sur cette histoire de communes, de villes vertes en 2020. chaque maire, quelle que soit son étiquette politique, dès lors qu'il écoute ses concitoyens et qu'il prend en compte les problématiques locales, forcément il fait de la transition écologique. Mmh. C'est obligé. Et ce serait trop facile de se dire qu'il y a des mairies vertes et que tout est réglé en 6 ans. Non, on est confronté encore une fois à de vrais problèmes structurels. Un, les finances, je le disais tout à l'heure. Deuxièmement, toutes ces normes qui nous tombent dessus. Enfin, je vais vous en citer une. Depuis le 15 octobre, nous sommes obligés tous les ans de rénover 3% de tous nos bâtiments publics. Voilà, cette norme, elle est partie de Bruxelles, elle est arrivée à Bure-sur-Yvette, elle ne s'est pas arrêtée à Paris. Débrouille-toi avec ça. Donc, comment on fait avec cette surréglementation qui nous tombe dessus sans arrêt, qui vient annuler les précédentes? Il faut qu'on arrête cette avalanche de normes et que l'État discute davantage avec les associations de maires, comme nous l'avons demandé à plusieurs reprises avec David Lisnard.
On parle d'écologie et d'élections municipales ce soir dans le Téléphone Zone avec Jean-François Vigier, qui est maire UDI de Bure-sur-Yvette, avec Brice Sokol, qui est politologue et essayiste, avec Guillaume Caline, qui est directeur du pôle Enjeux publics et opinion au groupe Variant. Et avec et on fait ça d'abord. Voilà, pardon.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et maintenant, on prend l'auditeur. Et il s'appelle Gilles. Bonsoir, Gilles.
Oui, bonsoir.
On alors vous écoute, soyez le bienvenu.
Je voulais témoigner pour Lyon, qui est souvent montré en exemple, mais je pense que l'exemple, c'est plutôt l'écologie punitive, parce que si on peut être d'accord pour faire ce qu'il faut pour améliorer l'écologie, il faut voir qu'il y a d'autres sujets qui sont importants et qui n'ont pas été pris en compte rapidement. C'est la sécurité, c'est le commerce, c'est la tranquillité publique, c'est des sujets. Alors, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais on s'aperçoit quand même que si on veut tout faire en même temps, ce qui a été le cas sur Lyon, où il y a beaucoup, beaucoup de travaux, où il y a des endroits qui sont sinistrés parce que c'était tellement bloqué qu'il ne pouvait plus y avoir de commerce. Et moi, je peux comprendre, même si je ne suis pas directement concerné, qu'il y a un moment, on se dit c'est gentil l'écologie, mais faut que ça soit avec d'autres choses et pas que ça soit l'écologie. Parce que c'est bien, mais faut penser qu'il y a d'autres sujets qui sont importants. Et je dis ça, c'est pas le choix d'une personne en particulier qui va se présenter, mais je dirais que moi je suis un petit peu surpris que c'était aussi brusque. Et surtout au détriment d'autres sujets qui sont importants.
Merci
surtout,
beaucoup.
Surtout par rapport à ça.
Pardon Gilles, et merci beaucoup pour cette remarque. Ce sera pour vous Guillaume Caline, mais j'ai vu que vous aviez levé le doigt Jean-François Vigier.
Oui, parce que monsieur a raison, il faut qu'on s'occupe de tout. La sécurité est devenue une préoccupation. Et moi, par exemple, j'ai fait passer mon service de police municipale de 2 policiers municipaux à 6 policiers municipaux, effectivement, que j'ai dû armer pour les raisons qu'a expliqué Brice Sokol. Et par ailleurs, il y a un autre sujet aussi qui est devenu premium, c'est la santé. Et les maires se battent aujourd'hui pour permettre à leurs concitoyens d'avoir une offre de santé de proximité. Et ça, c'est aussi un enjeu qui est devant nous.
Ouais, et ça, on l'entend partout, hein, pouvoir d'achat, sécurité, déserts médicaux. Guillaume Caline, je le trouve intéressant, notre auditeur lyonnais, parce qu'il fait écho à notre auditeur parisien qu'on a eu en tout début d'émission sur une trop grande rapidité peut-être, sur cette espèce d'idée qu'il faut faire ses preuves tout de suite dans le créneau dans lequel on a été élu. C'est peut-être ça aussi, trop brusquement, c'est ce qu'a dit Gilles.
Tout à fait, c'est vrai que là c'est un des grands enjeux justement pour les écologistes pour ces élections, c'est d'apporter la preuve de leur bilan. Et c'est vrai que ce que montrent les enquêtes aujourd'hui dans les différentes villes où les écologistes ont été élus en 2020, c'est que ce bilan il est très diversement apprécié et parfois négativement par un certain nombre d'électeurs. Et c'est notamment le cas effectivement à Lyon où les différents sondages qu'on a pu réaliser montrent que le maire sortant est en grande difficulté, sans doute effectivement parce qu'il a voulu aller parfois trop vite, aller tout mener en même temps et puis donner effectivement le sentiment de pas être à l'écoute en fait en menant ces politiques environnementales qui ont une vraie implication auprès des habitants et qui doivent être écoutées. Après, la situation elle va aussi varier en fonction des villes. On a effectivement des villes comme Bordeaux ou des villes aussi comme Tours où le maire sortant n'est pas forcément en aussi grande difficulté et peut défendre un bilan et le mettre en valeur. Mais c'est vrai que pour les écologistes en tant que parti, ce scrutin de mars, il va être assez délicat en termes de défense de bilan.
Je vais vous donner la parole, Brice Sokol, mais je voudrais lire d'abord le message de Laurent sur WhatsApp et qui dit « Moi, j'habite à Lyon, on arrive enfin à circuler à vélo, j'adore les projets de Lyon, j'en ai assez d'entendre ces critiques concernant Lyon. On est à la veille d'élections municipales, donc on est heureux aussi d'avoir donné la parole à Laurence. Je sais que vous vouliez ajouter quelque chose. »
Juste, moi, quand j'ai discuté avec Grégory Doucet à Lyon, sur le sujet de Lyon, il m'a dit « Moi, si j'avais pas fait en 2 ans, de manière un peu, un peu rapide, ce que j'ai réalisé, je ne l'aurais pas fait. Et je n'aurais pas montré que ma politique est différente de mes prédécesseurs. » Donc je n'excuse personne, je ne suis pas son avocat, mais c'est une explication. Mais c'est intéressant, aux Pays-Bas, les écologistes ont perdu l'année dernière les législatives très sèchement. Mmh. Et ils ont fait tout un travail avec différents cabinets sur le pourquoi. Et un des items majeurs était parce que eux qui voulaient incarner la société civile n'ont pas été capables d'avoir des relations structurées avec l'environnement économique. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur canal de nage et n'ont pas su s'ouvrir à un environnement beaucoup plus large, notamment l'environnement économique. C'est une de leurs conclusions.
J'ai sous les yeux 2 messages WhatsApp que je vous livre et que je trouve intéressants. Guillaume Caligny, Antoine qui dit « Je suis d'accord avec beaucoup d'auditeurs, on voit l'écologie à gauche alors que c'est l'affaire de tous. Pourquoi est-ce que les partis verts siègent finalement notamment à gauche à l'hémicycle ?» Et un autre, je suis en train de remonter le fil, Christelle, étant orienté à la gauche écologiste, je suis atterré de la non-lisibilité de l'offre écologiste sur la campagne à venir. Donc on a l'impression, au fond, que même les électeurs ont du mal à dire où est l'écologie ou l'écologiste qui est représenté dans leur ville, où ils se trouvent eux par rapport à ça. On a l'impression qu'on a eu une envie de pure neutralité, en fait, dès lors qu'on parle d'écologie, Guillaume Caline.
Tout à fait.
Ce qui est impossible,
oui,
mais en tout cas, c'est le...
Tout à fait, c'est le vrai problème, finalement, du positionnement d'un parti comme celui-ci, où finalement, quand ils ne parlent pas d'écologie et qu'ils vont se positionner sur d'autres sujets, notamment sociétaux, et bien, ils vont être perçus comme étant trop à gauche par un certain nombre de personnes, ou alors, justement, ne se préoccupant pas assez d'écologie et de parlant des sujets qui ne sont pas importants. Et puis, s'ils ne parlent que d'écologie, on va leur reprocher de ne parler aussi que d'écologie et de ne pas s'intéresser aussi aux autres sujets qui peuvent être importants pour eux. Et c'est vrai que là, on voit un peu la difficulté structurelle dans laquelle se trouve le parti. Et on voit que finalement, sa popularité aussi au fil des élections est très variable en fonction du contexte, en fait. En fonction aussi des épisodes climatiques, en fonction de la saillance de sujets environnementaux avec... Du coup, un certain nombre parfois de quiproquos et forcément de déceptions.
Voici Jacques qui est à Nîmes. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
On vous écoute Jacques.
Alors, je faisais une remarque parce que, en fait, vous avez bien expliqué que la transition, si elle doit être écologique, elle doit aussi être sociale. Ça, c'est évident, effectivement. Il faut protéger les plus fragiles. Mais pour que ça marche, il faut aussi qu'elle soit démocratique, qu'elle touche la gouvernance, c'est-à-dire la façon de prendre les décisions, la façon de les partager, d'avoir de la vraie remontée de terrain, c'est la condition sine qua non pour qu'elle soit acceptée par tout le monde. Mais ça, c'est vraiment très important.
Merci Jacques pour cette remarque. Jean-François Vigier, monsieur le maire.
Oui, il faut. Ça nécessite de la démocratie locale, ça nécessite aussi de l'adaptation des décisions. Je vais vous prendre un exemple très concret. Dans mon programme de 2020, je n'avais pas inscrit la végétalisation des cours d'école. J'ai végétalisé pendant le mandat 2 groupes scolaires sur 3, parce que cette demande est montée puissamment et on a compris qu'on devait apporter une réponse concrète à nos concitoyens. Et puis, il faut développer aussi un lien direct avec eux et constant. Et nous, on le fait, par exemple, à travers des comités citoyens sur l'énergie, sur la biodiversité, sur l'alimentation, de façon à avoir une discussion régulière avec eux. Mais encore une fois, sur ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense que les programmes municipaux qui vont être présentés comprendront beaucoup d'écologie, même si ça n'apparaît peut-être pas au premier abord, mais dès lors que on est conscient de ce qui se passe dans la vie locale, forcément, les maires sont conscients qu'il faut rénover les écoles, qu'il faut proposer les mobilités douces, qu'il faut refaire venir le vert en centre-ville, enfin, toutes ces questions qui, aujourd'hui, concernent la vie quotidienne.
Et la participation citoyenne, Brice Sokol, qu'évoquait notre auditeur Jacques, on l'entend à hauteur d'Assemblée nationale beaucoup, mais évidemment, à hauteur de mairie aussi, et peut-être même plus, d'ailleurs.
Dans l'ouvrage qu'on a coécrit avec Frédéric Dabi, c'est une vraie demande de nos concitoyens, c'est-à-dire qu'ils veulent évidemment aller aux urnes tous les 6 ans, mais ils veulent être concertés pendant ces 6 ans sur un certain nombre de sujets, dont des sujets qui touchent évidemment à l'aménagement, à la santé, au logement, à l'écologie. C'est une réalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, finalement, paradoxalement, on parle beaucoup d'écologie urbaine. Mais ce qui va peut-être sauver l'écologie, dans ce sens politique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience chez les ruraux, chez les agriculteurs, de ces thématiques écologiques. Avant, ils parlaient de sécheresse. Allez, il y a 2 mois de sécheresse, il y a quelques inondations, ça ne dure pas. Là, eux aussi subissent sur le plan matériel, économique, les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, c'est intéressant, c'est que cette thématique écologique, qui pouvait être une thématique réservée aux urbains, devient une thématique aussi préoccupante pour les ruraux. Et je pense que ruraux et urbains font que demain, l'écologie va devenir vraiment une vraie préoccupation pour l'ensemble de nos politiques publiques.
Guillaume Caline, mais c'est vrai que, on le disait, hein, les 7 maires de 2020, ce sont des villes de plus de 100 000 habitants. L'action dans les villes moyennes, effectivement, semble plus compliquée. On parle là de ruralité, on a entendu la ruralité ces 6 dernières années. On a aussi entendu beaucoup de conflictualité, justement, entre les agriculteurs et d'autres, au sujet des pesticides, notamment de choses de ce genre-là. Donc, est-ce que la vision de l'écologie est la même dans une ville de plus de 100 000 habitants et dans une petite ville ou une ville rurale, on a l'impression quand qu'on est un peu dans deux mondes quand même.
Mais quand on regarde les enquêtes, on voit que cette préoccupation écologique et environnementale, elle est en fait aussi forte dans les grandes villes que dans les petites villes, mais évidemment elle va s'exprimer en termes d'action, en termes d'attente de manière différente, où effectivement dans les grandes villes ça va plus être effectivement la question par exemple de la végétalisation, de l'encouragement à des mobilités...
Les pistes cyclables, etc.
Sûr, ouais. Alors que dans les plus petites villes ou dans les zones rurales, ça va plus être autour de la préservation du cadre de vie tel qu'il est jusqu'ici, de la limitation aussi de l'artificialisation des sols dans les petites villes, donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas opposer les ruraux et les urbains. C'est des attentes différentes, mais tout aussi importantes par rapport à la transition écologique.
Allez-y, Monsieur Vigier.
Oui, je pense aussi qu'il y a un point important, c'est que la transition devra s'accompagner de décentralisation. Et c'est une demande que fait régulièrement l'AMF, et encore l'a rappelé David Lisnard il y a peu. Nous devrons avoir plus de liberté locale pour agir. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui dans le cadre du projet de loi de décentralisation. L'AMF demande plus de liberté, plus d'adaptation aussi aux contextes locaux. Chaque territoire est différent et il nous faut cette souplesse pour pouvoir agir au mieux des intérêts de nos concitoyens. Donc c'est très important de lier transition et décentralisation.
Il nous reste peu de temps, Brice Sokol. Il y a la question de Marie-Pierre sur WhatsApp où la remarque qui dit les ZFE sont en danger alors que c'est une question de santé publique, les villes écolos ont raison de prendre des décisions courageuses, etc. Est-ce qu'on n'est pas là dans les ZFE? Exactement dans ce qu'on a pu évoquer un moment au milieu de l'émission, le fossé entre le sociétal et le politique. Parce que là, sur les ZFE, pour le coup, c'est une décision qui est très très politique.
Pour moi, ce sujet de la ZFE, c'est la politique nationale et le populisme un peu national. Moi, quand on relit ce qu'a dit Clémence Guettet ou ce qu'a dit Marine Le Pen lorsque la ZFE au mois de juin dernier ont été supprimées, elles ont dit la même chose. Donc on est dans un discours là aussi populiste, politique. Et lorsqu'on parle dans notre ouvrage de attention à la nationalisation du scrutin municipal, cette thématique écologique, moi ce que je ne voudrais pas, c'est qu'elle soit instrumentalisée à des fins populistes et à des fins portant sur des clivages, j'allais dire, artificiels et pas sur la réalité, sur les besoins des Français.
Merci à tous pour cette discussion, merci de votre participation, merci à tous évidemment pour vos nombreux appels.